Good Morning Business, le débrief de la matinale.
Allez, à 8h38 avec Florence Tondumélic, directrice de WTW France pour Emmanuel Lechypre. C'est l'ancien Grâce à Voix. C'est un immense assureur, gestion des risques, gestion capital humain, courtage.
C'est plus clair.
Voilà. Sébastien Abyss, spécialiste de, notamment de géopolitique agricole. Et puis Emmanuel Lechypre, spécialiste de quoi?
De tout.
T'apprends des choses tous les jours, vous voyez.
Bon. Il est là pour apprendre.
Allez, on va parler de sécheresse parce que ça nous inquiète tous. Il y avait Benaoud Abdelhaim ce matin qui nous disait que l'Arctique allait fondre d'ici 25 ans. Ça, c'est fait. Et on peut rien y faire. Même si on réduit les émissions de CO2, c'est trop tard. En septembre, dans 25 ans, il n'y aura plus de glace en Arctique. Et nous étions aussi en Chine ce matin.
Oui, en Chine, qui fait actuellement face à une canicule sans précédent, avec plus de 36 degrés enregistrés la semaine dernière à Shanghai. Une sécheresse qui a des conséquences économiques dramatiques. Sébastien Lebelzik, depuis Pékin.
Oui, les conséquences sont déjà bien visibles. Ici, il fait 35 degrés aujourd'hui à Pékin. Alors, au-delà de la chaleur assommante et du ronron des climatiseurs dans les grandes villes, les campagnes sont dévastées. Les semis de printemps dans les rizières sont déjà brûlés par le soleil. Les prix des légumes ont encore flambé de plus de 20% sur un an. Et dans le nord-est de la Chine, le grenier à blé de l'Asie, eh bien la production devrait chuter et remettre en question l'objectif d'indépendance alimentaire de la Chine. Plusieurs provinces ont déjà limité l'approvisionnement en électricité de plusieurs centaines d'entreprises à forte consommation d'énergie, principalement pour la production d'aluminium. Et cette vague de chaleur historique, eh bien, pourrait coûter entre 1 point et 1,5 point de croissance au PIB cette année. Et puis tous les pays de la région sont également frappés par cette canicule exceptionnelle cette année, de Singapour au Japon, en passant par le Vietnam. Mais selon les experts de l'ONU, la Chine est 30 fois plus exposée que les autres au changement climatique, la faute à son urbanisation galopante et à sa boulimie d'énergie, notamment le charbon très polluant et émetteur de CO2.
Sébastien Abyss, on espérait ces derniers jours, ces dernières semaines, une baisse sur le front des prix alimentaires. Là, clairement, avec une sécheresse comme ça en Chine, ça ne peut faire que monter les cours mondiaux.
Oui, pour deux raisons. C'est-à-dire que la baisse des matières premières a été plutôt liée à une surchauffe exceptionnelle entre Covid, guerre Ukraine depuis 2-3 ans, et à l'absence de gros pépins climatiques, en fait, dans les grands greniers du monde. Cette année 2023, on voit que sur le front géopolitique, l'accalmie est toute relative. On voit même plutôt des crises se multiplier dans certaines sous-régions du globe. Et le climat, cette année, est encore plus compliqué. Et nous avons des problèmes de sécheresse tout autour du pourtour méditerranéen.
Ouais, regardez l'Espagne.
La Chine, là, qui est concernée. Dans le cas de la Chine, on a l'effet pachyderme chinois. C'est-à-dire que quand la Chine a des problèmes intérieurs, ça a un impact sur la scène internationale. Sur le plan agricole, ça veut dire que la Chine qui produit moins est une Chine qui va faire encore plus de courses sur la scène internationale, avec la capacité de payer, ce que d'autres pays ne peuvent parfois pas faire. Et donc, la Chine va sans doute concourir à un nouveau renchérissement de matières premières, notamment céréales, dont elle a besoin pour nourrir 1,5 milliard de personnes. On ne cesse de dire que la Chine est en train de vieillir et se dépeuple. Je rappelle simplement que la Chine, entre 2000 et 2023, a gagné 170 millions d'habitants. La Chine n'est pas encore dans une phase de dépeuplement. Il faut nourrir 1,5 milliard de personnes.
Et bien, le Chypre, vous nous promettez depuis des mois la fin de l'inflation. Du coup, c'est raté, non?
Je vous promettais la fin de l'inflation dans quelques mois. Après, effectivement, il y a beaucoup de produits qui risquent. Alors, il y a l'énergie, il y a effectivement les matières premières agricoles. L'autre problème, c'est qu'en fait, c'est pas que une question de niveau de production dans chacun des pays. C'est qu'il faut bien voir que le marché mondial, en fait, il est souvent fait par quelques acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, les montants qui s'échangent pour ajuster l'offre et la demande mondiale, c'est vraiment quelques pays qui participent à ces équilibres extrêmement fragile. Et donc, on a effectivement un risque de désorganisation des marchés mondiaux. Après, il n'y a jamais eu de difficulté à nourrir les gens pour des raisons de niveau de production. C'est-à-dire que les pays dans lesquels on n'arrive pas à se nourrir aujourd'hui, c'est jamais pour des raisons qui sont des raisons climatiques, agricoles, c'est toujours pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il faut... Les famines... Ça n'est pas des famines qui viennent d'une insuffisance de production.
Ça pourrait,
en général. C'est lié surtout à des problèmes plutôt techniques, politiques, plus qu'au niveau de production.
Florence, dans votre casquette d'assureur, les aléas climatiques, c'est devenu l'unique sujet quasiment.
Bah, effectivement, le sujet n'est pas nouveau. Et pour moi, il y a deux choses. Il faut raisonner en termes de responsabilité et aussi raisonner en termes de solidarité. Quand on parle de responsabilité, on le voit bien aujourd'hui avec la météo inversée en France. Sécheresse au nord, inondation dans le sud. On passe d'un monde à un autre. On a un sujet systémique à adresser qui est celui de comment on nourrit dans ce contexte la population mondiale. Et ça va nécessiter aussi des nouvelles approches avec l'ensemble des parties prenantes, les acteurs privés, les acteurs publics. au niveau des régions, la PAC, l'Europe.
Mais c'est intéressant que vous dites, Florence Tondumelli, que vous dites, c'est votre métier, il faut chercher les responsabilités. Donc, dans ce cas-là, qui va financer, parce que vous devez couvrir les risques, qui va financer ce type de risque climatique ?
Alors, qui va financer ce type de risque climatique ? C'est effectivement une question qui est importante. Et il y a la question du court terme et il y a la question du long terme.
Ouais, c'est ça.
À court terme, je pense qu'il y a différentes réponses qui sont apportées. D'abord, il faut regarder en prévention. C'est par exemple tout l'objet du plan sur l'eau qui a été proposé par le gouvernement la semaine dernière. Donc, il y a des actions qu'on peut déjà mettre en place. Mais c'est aussi la réforme de l'assurance agricole qui est intervenue un peu plus tôt cette année. On sait qu'en 2022, seulement 17% des terres utiles agricoles étaient assurées. Donc, il y a un travail que l'on peut faire à ce niveau-là de choc d'assurance. Et puis, il y a le sujet beaucoup plus long terme qui est le financement de la transition.
Emmanuel ?
Et puis, attention, quand on parle de sécheresse, c'est pas forcément lié à un déficit global de précipitations. Ce qu'on constate, notamment en France, et c'est ce que disent par exemple tous les viticulteurs dans le sud de la France aujourd'hui, ils disent, c'est pas qu'on constate que globalement, il pleut moins, mais en fait, il pleut moins souvent, et quand il pleut énormément. Donc, il y a des fréquences aussi qui font que il pleut beaucoup plus. Et puis, par certains moments, et après, et ça n'a pas évidemment du tout le même impact sur l'environnement.
Sébastien.
Moi, je pense qu'il y a un mot qui a été prononcé de solidarité. Je pense qu'il faut insister sur le renforcement des interdépendances. Au niveau international, le changement climatique appliqué à la sécurité alimentaire, c'est une accentuation des interdépendances. On va avoir tous les ans des choses très différentes dans tous les pays, ce qui fait qu'on a besoin les uns et les autres de travailler ensemble et de rapprocher l'offre et la demande. Parce que le volume de production est peut-être une chose, les réalités géopolitiques, climatiques, économiques, sociales, selon les pays et selon les années, voire parfois selon les mensualités, peuvent être très différentes. Donc, interdépendance accentuée. Mais ça veut dire aussi que nous, consommateurs, il faut bien avoir conscience qu'on est dans un siècle où on va devoir de plus en plus prier pour que les agriculteurs, d'ici ou d'ailleurs, puissent produire. Parce que on peut assurer, on peut faire des questions sur les responsabilités.
On n'arrive pas à produire.
À un moment donné, on est tous logés à la même enseigne, on est 8 milliards sur cette table alimentaire mondiale, et on a tous besoin de se nourrir tous les jours. Il va falloir compter sur des agricultrices et des agriculteurs qui peuvent à la fois faire leur métier, vivre de leur métier, et résister à des chocs climatiques qui sont importants, d'où le sujet quand même assurantiel.
Et ça veut dire qu'on aura aussi besoin d'agriculteurs qui peuvent compter sur pas
les
seulement
assureurs.
Non mais sur les assureurs et qui devront utiliser des technologies et des semences qui ne seront pas que des fantasmes d'écologistes, voyez. Donc je ne vois pas comment, dans ce monde qui vient, on pourrait, par exemple, se passer des OGM ou de toutes ces cultures qu'il va falloir rendre plus résistantes.
Florence. Non mais en termes d'assurance, parce qu'on disait il faut compter sur les assureurs, le financement de la transition énergétique, vous pouvez faire quoi ? Vous pouvez les aider, les accompagner en leur disant il faut accélérer, notamment sur les technologies ?
Alors effectivement, il y a tout un sujet de prévention et d'aider à la transition en matière de gestion des risques, comprendre ces risques, les identifier, les cartographier pour s'en prémunir. Et puis il y a le sujet effectivement de financement en cas de gestion de crise. Et aujourd'hui on voit donc cette réforme en fait de l'assurance agricole qui permet d'avoir une approche multirisque, mais ce qu'on voit se développer de plus en plus, c'est des nouvelles formes d'assurance. Je pense à l'assurance paramétrique ou pour une typologie de péril donné, péril sécheresse ou péril grêle. Aujourd'hui, il y a des capitaux qui sont mobilisables quand certains seuils en fait sont franchis, un certain nombre de jours de sécheresse par exemple par année avec une indemnisation. Donc il y a aussi de l'innovation qui est faite à ce niveau-là.
Alors on va changer de sujet pour notre débrief. On va parler aussi de la réforme du marché du travail par le gouvernement, présentée cet après-midi en Conseil des ministres. L'idée, c'est de simplifier tout ce qu'il y a en France aujourd'hui, parce qu'à côté de Pôle emploi, il y a plein d'autres organismes, les missions locales, les aides pour les titulaires de RSA. Bref, l'idée, c'est d'avoir un guichet unique. C'est ce que nous expliquait Alexandre Viros, le patron d'Adecco, qui était notre invité.
Je dirais qu'il y a une obligation qui est presque collective, peut-être citoyenne, mais vraiment avec un impact économique et social, d'avoir une logique, disons, pour faire simple, de guichet unique.
De parcours candidat.
Oui, de parcours candidat. Et là déjà, si on simplifie, vous simplifiez. On parle des ruptures de charges. C'est comme en transport. Si vous voulez, vous ratez le changement de train quand il y a trop de changements. Là, c'est un peu la même chose sur l'emploi. Il faut simplifier ce parcours.
Mais le chiffre, le guichet unique, c'est quand même une bonne nouvelle.
Le guichet.
Mais non, mais vous dites...
c'est toujours le remède miracle. On va faire un guichet unique. En général, 9 fois sur 10, ça, on n'y arrive pas vraiment. Non, ce qu'il faut, si on veut remettre un peu de perspective, toutes les réformes qui ont été faites pour mieux faire fonctionner le marché du travail, grosso modo, on a fait quand même énormément. C'est-à-dire que ce qui a été fait est beaucoup plus important que ce qu'on fait là. Grosso modo, on a fait 90% avec les lois El Khomri, les lois Pénicaud, etc., etc.
Oui, mais ça, c'est pour les gens qui sont sur le marché de l'emploi. Et là, ceux qui sont à l'exclusion.
Oui, mais ceux qui sont à l'exclusion...
Ils ne savent pas à qui s'adresser.
Il faut savoir que dans le RSA, effectivement, il y avait une contrepartie d'activité, sauf que c'est l'État qui n'a jamais assumé sa part du travail et considérer que c'est aux gens qui sont allocataires d'aller trouver un travail, bah c'est pas comme ça que ça marchait. Ça marchait pas, ça avait pas non plus marché avec le RMI qui s'appelait revenu minimum d'insertion ou insertion, ça n'avait pas marché non plus. Donc là franchement, si c'est pour leur faire des travaux dans les municipalités et les choses comme ça, on sait très bien ce que ça donne. Regardez les travaux de Francis Cramart, c'est qu'à la fin, ils sont moins employables même qu'au début.
Mais donc la question c'est d'accepter une partie de la population qui est inemployable. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas travailler.
Non, mais aujourd'hui, oui, alors aujourd'hui, c'est un fait. Tout le monde ne peut pas travailler. Après, est-ce que c'est en la faisant bosser quelques heures comme ça qu'on va la rendre employable? Je ne suis pas sûr. Et effectivement, après, le guichet unique, c'est encore une fois, c'est très bien. Mais les freins aujourd'hui au retour sur le marché du travail sont tellement nombreux et tellement puissants que c'est pas seulement le fait de fluidifier la gestion de votre dossier qui va faire que vous allez miraculeusement trouver du travail.
Florence Ondumélic, c'est votre métier. Ça, vous pouvez pas laisser Emmanuel dire que tout le monde n'est pas employable. Tout le monde est employable.
Moi, je crois que c'est effectivement quand il fait beau, pour reprendre le point sur la sécheresse, qu'il faut travailler sur la toiture. Et aujourd'hui, on a un ensemble d'excellentes bonnes nouvelles, un chômage à 7,1%, extrêmement bas parmi les populations, notamment seniors, des chiffres aussi qui sont extrêmement solides côté des jeunes. Et quand on est dans un contexte pénurique, et la pénurie, c'est pas que dans les métiers techniques du numérique, on le voit, c'est aussi même chez les saisonniers, dans les emplois de la restauration. Moi, je crois qu'on a une opportunité unique de faire bouger les lignes. Et pour ça, il faut regarder un petit peu ce qui se passe en dehors des frontières. Et si on prend par exemple le cas de notre voisin qui est l'Allemagne, ils ont un taux de plein emploi à 77%. Nous, on est à 68,5%. Et ben l'écart de 8,5%, il y a l'écart de 8,5%, c'est quoi? C'est pour 4,5, c'est l'emploi des jeunes. Et c'est là où tout le travail autour des contrats d'apprentissage me semble très intéressant. C'est l'emploi des seniors. Et en Allemagne, la retraite s'effectue à 64 ans plutôt qu'à 62 ans. On revient sur un sujet d'actualité. Et puis, c'est aussi la compétitivité et donc les filières de formation pour maintenir notre productivité. Et ça, c'est ce qui explique l'essentiel de l'écart en termes de création de richesse entre nos deux pays, nos différences en termes de PIB ou en termes d'endettement.
Mais là, c'est ni France Emploi, ni le fait de vouloir faire travailler les gens au RSA.
Mais
je disais,
c'est multifactoriel.
Ce
il y a les problèmes des places de crèche, les problèmes du logement, le problème du handicap. Est-ce qu'on va pouvoir résoudre tout ça dans un nouveau dispositif?
Juste pour prendre de la hauteur sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on voit qu'on est sur un mouvement de bascule et un peu du tissu économique, on reparle de réindustrialiser l'Europe et la France, on entend de plus en plus que beaucoup de personnes veulent quitter les grandes villes et veulent repartir dans certains territoires. Ça veut dire aussi qu'il faut réhabiliter certains secteurs d'activité productifs. La première industrie de France, c'est l'agroalimentaire. L'agroalimentaire a un problème aujourd'hui d'attractivité, offre des emplois. Il y a plus de 50 000 emplois non pourvus dans l'agroalimentaire français, alors qu'il y a un sujet de souveraineté alimentaire, etc. Donc on voit bien aussi qu'au-delà du sujet des outils, du choc de simplification administrative français que depuis 15 ans on décrète, il y a le sujet de sur quoi on positionne les métiers de demain. Et il faut réhabiliter certains métiers, dire que ce sont des bons métiers dans lesquels il y a des perspectives et dans lesquels on travaille différemment, dans des territoires où il faut réinvestir humainement également, et donc avec des questions aussi d'accompagnement de politique publique, parce que si dans certaines zones en France il y a un déficit d'écoles, de crèches, etc., oui, ça pose des sujets. Vrai, oui. Mais en revanche, je pense qu'on ne peut pas s'abstenir d'un débat sur la géographie du travail et les secteurs d'activité qui aujourd'hui recrutent dans ce débat général sur le taux de l'emploi, du travail et d'une réforme de France Travail versus Pôle Emploi.
Mais je me demande si on s'adresse vraiment aux bonnes populations là dans le débat, parce que là on parle de places de crèche, etc. Et tout, mais Emmanuel a raison, il y a des gens qui sont complètement en dehors du marché de l'emploi, qui ont perdu toute capacité d'être embauchables. C'est pas en leur proposant des places de crèche ou un logement, c'est en leur remettant le pied à l'étrier, Emmanuel.
Oui, après il y a plusieurs solutions, hein. Soit effectivement on assume le fait que ils sont pas employables, et puis il y a effectivement sans doute une partie de ces gens qui sont un peu âgés aujourd'hui pour lesquels ce sera très difficile, ou bien il y a effectivement quand même une bonne partie des gens qui sont jeunes, etc. Mais où là ça va passer par la formation, et souvent la formation de base, hein, c'est-à-dire la formation générale, l'orthographe, les mathématiques.
Chez Adecco, ils annonçaient un CV grâce à l'intelligence artificielle orale, où vous dictez votre CV et ChatGPT vous l'écrit. Donc vous voyez,
Puis c'est ChatGPT qui ira bosser à votre place aussi.
Non, c'est juste que ça aide pour le...
Ah, ça vous fait peur, l'IA, vous. Ça vous fait peur,
ChatGPT? Non, ça me fait pas peur. L'IA au sens large, je sais pas si ça veut dire grand-chose, mais là, en l'occurrence, un outil comme ChatGPT, très clairement, il y a une véritable rupture. Moi, je vous prends un exemple qui est un exemple qui date d'hier, une société qui fait finalement des développeurs informatiques, qui comptait embaucher 150 développeurs informatiques, qui s'est rendu compte que le projet sur lequel ils étaient aujourd'hui, qui aurait pris en temps normal 3 ou 4 développeurs pendant 2 ou 3 semaines, ça a été fait par un développeur en 3 ou 4 jours, et que le projet des 150 embauches est aujourd'hui quasiment gelé. Voilà, c'est ça la réalité de ChatGPT. Donc c'est une vraie rupture. Même les rapports de Goldman Sachs qu'on a eus, etc., ça c'est dépassé.
Bon, c'est passionnant, mais malheureusement, on est arrivé au terme de l'émission parce que...